Bonjour, vous écoutez le podcast de l'ABM. Aujourd'hui, nous accueillons Francis Boyer avec qui nous allons parler de transformation des pratiques managériales et de plaisir au travail. Francis est passionné par les relations entre les individus en entreprise. Il accompagne les entreprises dans leurs projets d'évolution, de leurs pratiques managériales et il multiplie les angles d'attaque. La confiance, la co-responsabilité, le plaisir, la collaboration, l'agilité, autant d'axes pour créer des organisations équilibrées et résilientes. Bonjour Francis.
Bonjour Amy, merci de m'accueillir.
Est-ce que j'ai bien posé le cadre ou est-ce que c'était restrictif ?
Non, c'est très très bien, c'est largement suffisant.
Bon, pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es tombé dans la marmite de l'innovation managériale ? Puis après, tu vas nous expliquer d'ailleurs ce que c'est parce que...
Alors, je suis tombé dans la marmite de l'innovation managériale une fois que j'ai quitté le monde de l'entreprise après 20 années où j'ai exercé notamment des fonctions de DRH dans trois univers, la banque, le spectacle vivant et l'économique et le social, où je me suis rendu compte, après avoir quitté ma dernière entreprise, que je rencontrais toujours les mêmes problématiques et je faisais toujours de la même chose, et donc ça avait toujours les mêmes effets. Et quand on est en poste, la difficulté, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, de prendre de la hauteur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc, quand on prend ce temps-là, ce que j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir, eh bien, on comprend pas mal de choses. Et on comprend notamment que la société, elle évolue de plus en plus vite. Et que quand une société évolue, eh bien, ça a forcément un impact sur l'entreprise. Et moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens, enfin, en tout cas de leur proposer des grilles de lecture pour les aider à bien comprendre ce qui se passe. Et je dois avouer que la crise Covid-19 m'a pas mal nourri, même si au début, c'était un petit peu pénible pour nous, les conférenciers. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de matière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui accélère quelque chose qui était déjà en cours et qui va amener les entreprises à de nouveau se réinterroger sur la manière dont elles peuvent trouver le meilleur équilibre entre épanouissement et performance.
Oui, on imagine bien que ça a été un accélérateur, on va en reparler un peu après. Juste pour poser le cadre et qu'on parle tous de la même chose, on parle de manager, mais c'est quoi un manager ? Toi, tu peux nous le redéfinir ?
Alors, l'innovation managériale, donc il y a le terme de manager. Le terme de manager, c'est juste celui qui encadre, alors il y a plusieurs origines, hein. Soit c'est prendre en main, soit c'est le manège, donc faire tourner les choses dans le bon sens. Moi, je pense que le manager, c'est une autorité hiérarchique qui coordonne et puis qui s'assure que ce qui est demandé aux collaborateurs soit fait dans les meilleures conditions possibles. Et je crois beaucoup qu'un vrai manager doit faciliter le travail de ses collaborateurs. Si tant est que les collaborateurs en ressentent le besoin, et c'est ça la principale difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est à géométrie variable, les attentes des salariés sont complètement différentes, on n'est plus dans le conformisme social d'il y a quelques décennies. Et donc aujourd'hui, la difficulté du manager, c'est d'arriver à être un petit peu Shiva d'une certaine manière et arriver à concilier beaucoup de besoins, d'ententes et d'enjeux complètement différents. Et il est pris en étau entre les attentes de la direction générale et puis les attentes des collaborateurs. Donc, je ne sais pas si la définition est bonne, mais l'innovation managériale, au sens où moi je le propose, c'est tout simplement passer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte.
Ok, ça se résume en une phrase là.
Voilà, tout simplement.
Alors, enfant, c'était le monde de quand, alors, celui-là ? Parce que finalement, là, tu viens de mettre un petit coup d'œil dans le rétro en disant, il y a une cinquantaine d'années, il y a une quarantaine d'années, voilà ce que c'était le manager. Est-ce que c'était à ce moment-là le parent-enfant ? Oui, parent-enfant ?
Oui, alors,
même aujourd'hui encore.
Ça l'était, ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui parce que quand on regarde un peu l'évolution du management, on s'aperçoit qu'on lui a donné plusieurs noms. Ça, il a eu le nom de patron, de chef. Il a les noms de manager, de cadre, de leader. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt le facilitateur. Mais en fait, au niveau de la France, il est toujours dans une position de parent parce que notre code du travail le met dans une position de parent.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que notre code du travail confie l'entière responsabilité au chef d'entreprise et à ceux qui l'accompagnent de créer les conditions à la fois du bonheur et de la performance. Il y a ce qu'on appelle le lien de subordination unilatérale hiérarchique, qui fait que on est dans une société où on essaye de se conformer à l'autorité, de se faire bien voir par l'autorité. Et il s'est passé quelque chose avec la crise Covid-19, c'est que il y a beaucoup de Français qui rejettent un peu ce système-là et qui ont envie de se faire plaisir en fonction de leurs propres besoins, ainsi de créer un petit peu de désordre dans les entreprises. Je pense notamment à l'organisation hybride, au télétravail, etc.
Alors, excuse-moi, juste sur ce lien hiérarchique, on entend aussi parler beaucoup de management fonctionnel ou de management en mode projet, ou donc sur des choses où on n'est pas forcément dans l'animation de l'équipe et dans l'animation
des collaborateurs, on n'est pas forcément dans un lien hiérarchique. Est-ce que ce lien de subordination hiérarchique, il est indispensable à la fonction de manager aujourd'hui?
Alors, il y a un effet, si on veut, du côté de la psychologie sociale. Il y a un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est l'état agentique, qui dit qu'à partir du moment où vous demandez à une personne de faire quelque chose, vous le déresponsabilisez. Donc, vous l'infantilisez. C'est assez paradoxal. Et tout notre écosystème, il est fait de ça, en fait. Il confie à la hiérarchie la responsabilité de prescrire et de contrôler. Et donc, de ce simple fait-là, eh bien, il y a un risque très, très fort de déresponsabilisation, puisque c'est pas moi qui choisis. Donc, du coup, comme j'ai pas choisi, je me sens moins responsable. Donc, c'est pour ça que l'expertise que je propose, la dernière que je propose à l'APM, c'est vraiment travailler sur cette notion de co-responsabilité. Moi, quand j'avais 22 ans, je prenais les fonctions de ressources humaines et puis j'ai mon DG de l'époque qui me croise dans le couloir et qui me dit « Francis, expliquez-moi pourquoi les gens se comportent comme des enfants dans l'entreprise alors qu'ils sont des adultes dans la vie privée. » J'avais 20 ans, j'ai pas su répondre. Donc, il a fallu que j'aille du côté de l'analyse transactionnelle pour dire « bah s'ils se comportent comme des enfants, c'est sans doute parce qu'on se comporte comme des parents.
Okay. »
Et c'est pas notre fait, et c'est pas notre faute, parce que c'est le système qui nous met dans cette position-là.
Ça, c'est typique français. Tu as parlé tout à l'heure de ce qui se passait dans les entreprises françaises. Est-ce que ailleurs, dans un modèle peut-être anglo-saxon ou outre-Atlantique, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent déjà, qui fonctionnent, qui ont prouvé leur performance?
Là, il y a effectivement dans quelques pays, c'est très culturel en fait. Hein. Donc, on voit que si on prend par exemple les États-Unis, l'Angleterre, tous ces pays où la Suède, où on part du postulat que vous êtes un adulte et on vous met dans des conditions d'adulte, eh bien, la relation est complètement différente.
Ok, c'est quoi des conditions d'adulte? Alors, demain, je veux changer mon organisation. Déjà, si on pose le cadre, on parle de toute taille d'organisation ou c'est un propos qui est plus adapté quand même aux grosses boîtes?
Moi, je pense que ça concerne toutes les tailles. Okay. Mais je pense que la difficulté est complètement différente selon les tailles et les secteurs. Donc, moi, je crois que, en tant que patron, par exemple, c'est très agréable d'avoir un collaborateur qui soit autonome, qui soit épanoui. Et souvent, je pose une question, si je prends par exemple l'épanouissement, je pose toujours la question, qui est responsable de l'épanouissement des salariés? Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que ce sont les managers? Ou est-ce que ce sont les deux? Mm-hmm. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
J'ai envie de te répondre les deux.
Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas motiver quelqu'un qui ne veut pas être motivé.
Oui.
D'une part. Et puis on se rend compte que dans l'entreprise, les salariés qui rejoignent les entreprises, il y a deux catégories de collaborateurs. Il y a ceux qui ont envie de rejoindre l'entreprise. Donc, c'est un choix par envie. Et puis, il y en a qui le font par dépit. Ils rejoignent une entreprise parce que, je sais pas, il faut bien qu'ils mangent ou c'est un besoin qu'ils cherchent à satisfaire. Donc, c'est très important de prendre conscience que quelle que soit la taille de l'entreprise et même le pays, finalement, la question qui se pose, c'est ça serait quand même super bien si tout le monde se comportait comme des adultes. Parce que le fait de se comporter comme des adultes, ça nous évite ce qu'on appelle les jeux psychologiques où là, on vit des choses que moi j'ai vécu en entreprise pendant 20 ans, hein, la victime, le persécuteur, le sauveur. Donc tout ça est pas très très sain. Et l'idée c'est vraiment d'essayer d'aider ceux qui le souhaitent à trouver un équilibre, un bon équilibre, un juste équilibre. J'entendais les podcasts sur le manager juste que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
J'ai beaucoup aimé cette discussion là avec notre ami québécois.
Tu fais ça. Voilà, et il m'a beaucoup inspiré, du coup j'ai creusé derrière.
La justice, j'ai trouvé que c'était un concept très fort, et c'est pas une sémantique qu'on a l'habitude d'entendre dans nos pratiques managériales françaises.
Non, parce que tout est cadré, alors je crois que l'intention, par exemple, des conventions collectives, elle est bonne, parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de juste, mais elle est sous-tendue par une espèce d'adhésion au conformisme social, ce qui aujourd'hui, de mon point de vue, n'est plus le cas.
Ok. Si on revient, donc toi tu dis le problème numéro un, c'est notre code du travail. Bon, on va pas pouvoir le brûler tout de suite.
Non.
Problème numéro 2 j'imagine, allez, je suppute si j'ai bien compris ton propos, ça serait même les process, parce que de fait, un process bien huilé, il déresponsabilise un petit peu, il faut que je l'applique.
Tout à fait, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on peut garder dans tout ça pour pouvoir quand même construire quelque chose sur une base existante? On va pas tout brûler, à moins que ce soit, non, je pense pas, que ce soit le fond de ton propos.
Ah non, alors pas du tout, parce que moi, mon objectif, c'est plutôt de dire... On garde l'ossature de l'entreprise, son organisation, sa classification. Puis on va plutôt travailler sur la circulation, on va remuscler un petit peu. Donc je suis plutôt sur des rituels et des pratiques. C'est pour ça que je suis allé directement à la pratique entre collaborateurs pour faciliter finalement une relation adulte-adulte qui, comme tu l'as justement évoqué, souligné, ne peut pas être impulsé par l'extérieur, par le code du travail. Donc du coup, il faut négocier un nouveau contrat collaboratif entre manager et collaborateur pour répondre à un besoin aujourd'hui que je trouve très émergent, très très fort de la part depuis la crise du confinement. Avant, je pense que les salariés attendaient que leur entreprise crée les conditions de leur bonheur. Donc c'était entreprise, crée-moi les conditions de mon bonheur. Et depuis depuis la crise, je pense que c'est plutôt entreprise, laisse-moi agir librement sur mon équilibre vie privée, vie pro. Donc offre-moi de la liberté. Et c'est complètement différent. Parce que pour offrir de la liberté, il faut conclure un nouveau pacte. Je ne peux pas offrir de la liberté à quelqu'un si je n'ai pas confiance, par exemple. Donc du coup, on va travailler sur la notion de confiance.
Et la confiance, ça ne se décrète pas.
La confiance, c'est loin de se décréter. Parce que la confiance, c'est la croyance que j'ai que tu ne vas pas me trahir.
Oui.
Et donc, ça se démontre, ça se manage. Hein, tout comme les valeurs, hein, il ne suffit pas de les mettre sur un mur, il faut les faire vivre. Et il faut les outiller.
Comment tu fais pour travailler sur le formalisme, la formalisation de ces règles, de ce cadre, de ce nouveau pacte social que tu crées dans l'organisation, sans que, de fait, ça devienne un nouveau code du travail, quoi, et que ça déresponsabilise à nouveau? Comment tu fais ça?
Alors, pour arriver, moi j'ai proposé un chemin en deux temps, hein, pour arriver à l'adulte adulte. Le premier temps, c'est d'amener les parents à devenir des adultes, donc d'amener les managers à adopter les postures qui vont permettre l'autonomie. Qui vont
concrètement, par exemple, c'est quoi, tu peux les nommer?
Les postures.
Postures principales.
Ça va être par exemple l'humilité, parce que c'est vrai qu'en tant que manager, la société nous dit qu'on doit toujours avoir raison sur tout le temps. Et par expérience, je connais pas beaucoup de managers qui aient tout le temps raison sur tout le temps. Donc, c'est accepter l'idée que parfois un collaborateur a une meilleure idée. C'est aussi lui permettre de prendre des initiatives et le soutenir. Et s'il échoue, ça va être de valoriser ses échecs en essayant d'identifier avec lui ce qu'il a appris et ce qui pourrait être bénéfique pour l'entreprise.
Alors, deux réactions, excuse-moi, on discute
à battre rompu. Bien sûr.
Première réaction, l'humilité, on en a tous pris une bonne dose avec la crise Covid qui était... on a l'impression, souvent quand on est en position de manager, qu'effectivement on sait, ou en tout cas on a une vision assez claire de ce que sont les choses, sauf qu'on vient de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'on est incapable de prévoir et qui ont un impact et une incidence énorme. Donc humilité, est-ce que toi tu as constaté qu'il y en avait plus depuis la crise Covid?
Alors l'avantage des crises, c'est que ça nous permet de nous remettre en question. Moi j'utilise beaucoup un acronyme qui est l'acronyme VUCA pour décrire un peu le monde dans lequel la crise nous a accéléré. C'est-à-dire un monde qui est proposé par l'armée américaine, hein, qui dit que le monde il est véloce, donc il va très très vite, il change très très vite. Il est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 à 3 prochains mois. Il est complexe, il y a trop d'informations, donc on comprend souvent a posteriori. Et puis il est paradoxal. L'exemple de paradoxe que je donne, c'est j'assiste à une rencontre, tout le monde met les masques dans la salle, et puis quand on fait la pause café, ben là il n'y a plus de masque. Le virus il s'arrête de circuler. Donc déjà, il faut prendre conscience de tout ça. Quand on est dans un monde qui est VUCA, forcément, ça malmène. Le changement permanent, ça malmène les habitudes. L'incertitude, ça malmène ceux qui sont habitués à tout contrôler. Et cette humilité, c'est moi, j'ai surtout travaillé pendant le confinement avec des entreprises sur apprendre à lâcher prise. Et apprendre aussi à dire à ses collaborateurs, je ne sais pas. Et ça fait pas de moi un mauvais manager, le fait que de ne pas savoir. Et il y a beaucoup de sondages qui disent que, en fait, ce confinement à rapprocher les collaborateurs et les managers, à créer un nouveau lien, une nouvelle forme de lien. Ça, je trouve ça plutôt bénéfique.
Mais Francis, tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure à l'APM, c'est des découvertes qu'ils font quand tu leur exposes ton point de vue? Parce que ça me semble être un propos qu'on entend quand même depuis longtemps, qui semble être déjà en place dans les organisations et dans une forme de management un peu plus responsable, tournée vers l'autre. Il n'y a pas de révolution là concrètement dans ce que tu nous racontes. Alors, c'est pas déjà en place tout ça.
La vraie révolution, c'est que on a déjà travaillé dans un premier temps à l'APM. C'est vrai que moi j'ai rejoint cette association parce que j'ai trouvé cette fibre et ça me parlait. On essaye de passer en tant que dirigeant de parents à adultes, mais il y a quelque chose qu'on fait jamais, c'est d'amener les salariés à passer d'une posture de enfant à adulte. Ça on ne fait pas.
Et alors comment on fait?
Eh bien, on lui donne l'autorisation de devenir un adulte. Pour lui donner l'autorisation, moi j'ai travaillé et je propose sur 10 principes. C'est un peu l'analyse transactionnelle, c'est les messages permissifs. Un exemple d'autorisation, eh bien, t'as le droit de faire des erreurs ou de te tromper à condition que tu en tires les enseignements et que tu les partages pour que ça puisse nous permettre de grandir.
Okay.
Voilà. Une fois qu'on a dit ça, super, génial. Et maintenant, concrètement, on fait quoi? Eh bien, là, je présente des pratiques. Hein, par exemple, comment s'y prennent Blablacar? Hein, Blablacar, il a un process qui s'appelle Fail, Learn and Succeed, hein, qui dit qu'à chaque fois que vous commettez un échec, eh bien, vous devez communiquer à la communauté votre échec, le fail, learn ce que vous en avez appris et le succès de votre solution pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est une pratique concrète et opérationnelle parce que, comme tu l'évoques, il y a beaucoup de, c'est un peu comme les accords Toltec pour moi. Tout le monde trouve ça super, mais pour s'y approprier, il faut quand même quelques années.
Oui.
Donc, et la particularité de l'APM que je rencontre les adhérents, ça fait 7 ans que j'y suis, c'est que on a beaucoup d'adhérents qui sont extrêmement dans la bienveillance. Et on en a discuté encore hier hein, en club. La bienveillance, c'est bien, mais peut-être que trop de bienveillance, c'est pas bien.
C'est quoi le prochain mot, là? Parce que bienveillance, on commence à en avoir un petit peu mal aux oreilles à force de l'entendre. Il ne veut plus rien dire, ce mot valise. C'est quoi le prochain bien, là, qui arrive dans la novlangue managériale?
Je ne sais pas ce que font les autres, mais en tout cas, moi, le mot responsabilité, co-responsabilité me parle bien.
OK.
Hein, c'est-à-dire que faut pas toujours tout faire reposer sur les épaules du manager. Moi, j'ai été dirigeant dans une entreprise. Moi, j'ai commencé en tant que comptable. Après, j'ai été chef de service, etc. Et ça fait beaucoup de choses hein, sur les épaules. Et moi, je pars du principe qu'il y a des choses qui sont sur les épaules qui ne devraient pas être sur leurs épaules. Mmh. Et donc, je veux bien créer les conditions de ton bonheur, mais c'est quand même toi qui es le principal responsable de ton bonheur. C'est pas moi. Donc, il faut qu'on en parle.
Même la question du bonheur au travail, c'est un sujet. Dans ce podcast, on a eu des débats. Il y a eu des experts qui m'ont dit, bon, il faut arrêter de dire que l'objectif du travail, c'est de fournir le bonheur.
C'est alors, le travail.
Chercher, on peut le faire dans de bonnes conditions. Mais de là à dire que c'est le bonheur que je viens chercher quand je viens travailler, c'est peut-être un petit peu édulcoré aussi.
C'est né au début des années 2000. Hein, ça, alors moi, mon analyse, hein, elle ne tient qu'à moi. Hein, c'est-à-dire que il y a eu un tournant en 2009 quand il y a eu la médiatisation des suicides de certains salariés sur leur lieu de travail pour raisons professionnelles. Donc ça, c'est jugé, on n'en parle plus. Et là, il s'est passé quelque chose où, en fait, si on s'en rappelle, le gouvernement a dit aux entreprises « on veut plus ça ». Et donc, du coup, les entreprises sont allées à fond sur les risques psychosociaux. Et après, on est allé sur la qualité de vie au travail. Mmh. Après, on est passé sur des chefs happiness, officers, etc. Et on a fait du baby-foot. Mais quand moi je travaille sur l'expertise du plaisir au travail, par exemple, je mets clairement en évidence avec les adhérents que c'est pas parce que j'ai un baby-foot que je vais aimer mon métier.
Ben non.
Ben, ça n'a rien à voir. Là, je peux peut-être aller sur la convivialité. Et puis que d'ailleurs, la notion de bonheur et de plaisir sont complètement différentes parce que c'est pas les mêmes molécules. Mm-hmm. Le bonheur au travail, c'est de la sérotonine, ça calme et ça apaise et puis ça peut durer longtemps. Alors que le plaisir au travail, c'est de la dopamine, ça excite. Et donc, nous, on essaye de créer du lien en disant, mais quelles seraient les activités qu'on pourrait confier à nos collaborateurs qui les excitent? Ça peut paraître un peu bizarre comme ça. Hein. Ce que certains appellent le flow.
OK. On cherche plus le plaisir que le bonheur, du coup, dans ta sémantique à toi?
Écoute, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le plaisir. Alors, il y a 10 ans, quand je parlais de plaisir, on me disait, vous êtes bien mignon, mon bon monsieur, mais pour l'instant, on n'en est même pas au bonheur. Donc, revoyez votre copie, revenez plus tard. C'est passé quelque chose pendant...
Toi, tu nous dis, les deux déjà sont pas dans le même registre. On joue
ça
pas sur le même
champ. Bah, si vous voulez, par exemple,
biologiquement, quoi, c'est ça.
C'est ça, c'est complètement ça. Donc, améliorer les conditions de travail ne provoque pas de plaisir. Mmh. Ça provoque moins de souffrance. Et donc, c'est pas pareil. Est-ce que je vais être heureux ou est-ce que je veux pas être malheureux?
Ouais, c'est ça.
Et donc, moi, dans mon processus, je vais plutôt essayer de trouver des collaborateurs qui veulent être heureux. C'est ça qui m'intéresse. Okay. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et dans le confinement, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, eh bien, les gens se sont posés des questions. C'est la première fois, je pense, où beaucoup de Français ont eu le temps de se poser des questions. Trois principales questions, de mon point de vue. Est-ce que mon métier fait sens? Est-ce qu'il m'épanouit? Et est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis me plaît? Mm-hmm. Et donc, on voit bien, selon beaucoup de sondages qui sont sortis ces 2 dernières années, que, ben, on peut s'attendre, alors peut-être pas à un phénomène comme on rencontre aux États-Unis, ça serait pas idiot que beaucoup de collaborateurs qui aient des réponses négatives à ces questions nous disent, bah, non, moi, ça me plaît pas, mon métier fait pas sens, il m'est pas venu ou pas, et mon entreprise peut pas faire grand chose, donc, du coup, je vais tenter l'aventure tout seul, en tant qu'entrepreneur. Et donc, on a des signaux faibles, comme ça, de collaborateurs. Alors, souvent, c'est des collaborateurs à potentiel qui nous disent, bon, bah, voilà, moi, je veux ma liberté. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on a été privé de notre liberté. Et du coup, ben, ça paraît légitime et compréhensible qu'on veuille la retrouver. Et dans la liberté, il y a aussi le plaisir. Je vais me faire plaisir parce que pendant 2 ans, je me suis pas vraiment fait plaisir.
À ton avis, sur ce point particulier de l'aventure en solo, est-ce que c'est plutôt parti aussi du constat qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas d'organisation qui proposait un modèle alternatif à celui qui constatait inefficient pour eux, inopérant? Et donc, bah, s'il n'y a pas d'autre vie collective, bah, je pars en solo. Parce qu'on pourrait s'imaginer que la réponse numéro un, ça serait de dire je quitte mon organisation pour aller vers une qui fait sens, qui me donne de l'autonomie, qui me procure du plaisir.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui disent « Moi, je veux une entreprise qui réponde à mon image, à mes attentes à moi, qui sont propres. » Et donc, tout le monde n'est pas capable de se l'offrir. Je pense qu'aujourd'hui, on a moins peur de tenter l'aventure.
Ça, c'est adulte ou enfant comme posture ?
Bien, à partir du moment où je prends conscience que l'écosystème dans lequel je suis ne me permet pas de satisfaire mes besoins, je deviens adulte de dire « Je vais tenter de les satisfaire par moi-même. »
Ok.
Voilà. Là, on est vraiment dans de l'adulte. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de collaborateurs qui quittent leur entreprise et qui maintiennent le lien avec leur ancien employeur, mais sous une autre forme, qui est plutôt de la prestation de service.
Ouais, ça, c'est une super passerelle, le temps de se refaire. Parce que peut-être ce qu'on verra dans la vague suivante, c'est que c'est pas si simple que de créer son propre modèle et de devenir la partie gestion et humaine, c'est pas la plus compliquée, mais développer sa propre activité, sa propre économie, trouver son modèle économique et l'équilibre de tout ça, ça sera peut-être un autre challenge pour tous les néo-adultes qui décident de prendre leur vie en main, et on leur souhaite en tout cas beaucoup, beaucoup de bonheur et de réussite là-dedans.
Ben, effectivement, on leur souhaite beaucoup de bonheur, mais la difficulté que rencontrent aujourd'hui les entreprises, c'est qu'ils ont du mal à trouver des candidats. Ce qui est relativement nouveau. Et donc, on voit que le chômage stagne ou baisse. On voit que les entreprises ont du mal à trouver des candidats. Donc, on se demande où ils sont, les candidats. Et par contre, c'est vrai que... Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de dirigeants qui me disent « Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils viennent, quoi ? Est-ce que je dois m'adapter ?» Ils le vivent parfois un peu comme un sentiment de soumission. C'est-à-dire, la génération millénium... qui m'impose comme condition de travailler, je prends un exemple, 3 jours par semaine chez lui, moi je peux pas, du coup je fais quoi ? Donc il y a des sociétés, des grands groupes qui disent, ben moi les gens veulent plus venir travailler. Si on prend le secteur de la restauration par exemple, la difficulté, ils rencontrent une grande difficulté en ce moment, c'est que les gens, a priori, ne souhaitent plus travailler en soirée ni le week-end. Et ça pose un problème. Donc et du coup on est en train de réfléchir à de nouvelles formes de partenariat pour pouvoir à la fois satisfaire les besoins de l'entreprise et essayer de répondre à ce besoin de liberté qui est extrêmement émergent en ce moment.
Le rapport de force se rééquilibre. Espérons qu'on aura toujours des boulangers qui accepteront de se lever la nuit pour nous fabriquer du pain frais, qui ne soit pas industriel. On prie pour ça tous les matins. Francis, on arrive déjà à la fin de cet échange passionnant. Tu sais, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. J'ai une question égoïste que j'ai envie de te poser. Moi, j'ai des enfants qui sont dans des phases d'orientation et j'aurais envie de leur donner les bons conseils pour qu'ils aillent acquérir les compétences qui vont vraiment leur permettre de prendre plaisir et d'être indispensables dans le monde de demain. Vers quoi je dois les orienter ? C'est quoi les conseils que tu donnerais à des ados aujourd'hui, toi, qui ne se trompent pas et qui fassent les bons choix demain ?
Je suis pas sûr que d'avoir une méthode infaillible. Par contre, je sais une chose, c'est que, et c'est d'ailleurs ce que j'ai conçu et proposé à l'APM et ailleurs, c'est que il faut aller essayer d'identifier les activités qui procurent le plaisir. Et pour pouvoir identifier les activités qui procurent le plaisir, faut nommer ce qui procure le plaisir. Et la compétence me gêne un petit peu parce que, par expérience, moi qui étais un ancien comptable, j'avais mes diplômes mais j'aimais pas ça. Donc, il y a une vraie différence entre la notion de savoir-faire et d'aimer faire. C'est pas parce que je sais faire que j'aime faire. Mm-hmm. Donc, il faut aider les jeunes. Et moi, j'interviens, par exemple, pour l'école de la deuxième chance, pour essayer d'aider les gens à aimer le travail. Donc, bien évidemment, on va pas les attirer avec l'approche compétence. On va les attirer avec l'approche appétence. C'est-à-dire que, par exemple, on va essayer de voir, je le faisais il y a pas longtemps avec une jeune qui me disait, ben, moi, ce que je veux être, c'est technicienne de surface. Moi, je la regarde super étonné en me disant, c'est pas possible, avec mon petit regard tout petit qui est le mien. Et puis, je me dis, tu peux faire mieux. Donc, grosse croyance très, très moche. Mm-hmm. Et donc, je vais explorer avec elle pourquoi elle aime ce métier. Et en fait, elle met en avant non pas des compétences, mais elle fait en avant des appétences. Moi, par exemple, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est l'esthétisme. Quand je rentre, c'est tout sale, c'est tout moche. Et puis, moi, hop, je nettoie tout et je suis contente d'avoir nettoyé tout ça et j'ai un sentiment comme ça de satisfaction. Donc, pour aider les enfants, faut déjà essayer de les aider à comprendre ce qui leur procure du plaisir. Et comme l'approche compétence le permet pas, eh bien, nous, moi, j'ai créé un jeu de cartes pour aider les jeunes qui constitue d'une trentaine d'appétences. Je vais donner des exemples d'appétences. La débrouillardise, MacGyver, faire preuve d'astuce. Mm-hmm. Bah ça, il y a pas de formation à prendre à être débrouillard. Mais par contre, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça. Ou comme l'originalité, pas faire comme les autres.
Okay.
Donc c'est vraiment les aider à mettre le doigt là-dessus. Et puis ensuite, on travaille avec beaucoup d'entreprises en ce moment, notamment en Normandie, en privilégiant l'aspect appétence. C'est pour leur dire on va déjà travailler sur vos appétences. Et puis ensuite, on va voir quels pourraient être les métiers qui pourraient nourrir vos appétences. Comme ça, nous, on aura peut-être une garantie que vous serez épanoui. Après, la question qui se pose, c'est quelle est la durée et le niveau de facilité à acquérir les compétences. Et on se rend compte qu'il y a 60% des emplois en France qui ne nécessitent pas forcément de diplôme, et qui sont très importants. Et on se rend compte que beaucoup de métiers peuvent être appris dans les 6 mois. Et okay. Donc on essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je te forme et après je vois si tu éprouves du plaisir », eh bien on va déjà voir ce qui te fait éprouver du plaisir, et ensuite on va voir quelle formation te serait bénéfique.
Merci Francis pour toute cette boîte à outils. On va pouvoir prendre soin de nos jeunes, on va pouvoir prendre soin de nos collaborateurs, on va pouvoir se comporter tous en adultes, et c'est une belle destination. Et on va prendre le chemin tous ensemble. Un grand merci pour cet échange.
Merci.
À très bientôt, Francis.
À très bientôt.